pour passer de belles vacances comme les voyageurs prévoyants, assurez votre voyage avec Sounou Assurance et suivez Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Se bidonner, s'esclaffer, se tordre, s'amuser, blaguer, rigoler, se marrer, se gondoler, se poiler, rire, dont la très sérieuse définition est la suivante. État émotionnel de gaieté qui se traduit physiquement par des expirations saccadées plus ou moins bruyantes et un léger plissement des yeux. Rire, nous allons le constater au cours de cette émission, agit à de nombreux niveaux sur notre organisme. Oxygénation, baisse des tensions musculaires, ventilation. Et cette joyeuse mécanique est bonne pour la santé. Nous allons donc essayer de comprendre pourquoi, avec nos invités aujourd'hui, quels sont ces différents bienfaits. Comment le rire nous rend-il plus résistant? Agit-il pour limiter le stress ou encore sécréter des hormones qui favorisent le bien-être? Rire peut aider à réduire la douleur, il agit sur la santé cardiaque, la santé vasculaire et bien sûr la santé mentale, renforçant le lien social, en dédramatisant certaines tensions, en réduisant l'anxiété. Et en matière de rire, si vous souhaitez rencontrer des experts, tournez-vous vers les enfants, puisque chaque jour, ils rient en moyenne 15 fois plus que nous autres, les adultes. Les bienfaits du rire sur la santé que nous allons explorer en votre compagnie, Anne-Victoire Rousselet, bonjour.
Bonjour Caroline Paré.
Vous êtes psychologue, psychothérapeute spécialisée en thérapie comportementale et cognitive au sein du Centre Hospitalier Sainte-Anne à Paris. Action du rire sur le cerveau, sur le corps. Nous joindrons Laurent Vercueil, neurologue, responsable de l'unité des explorations fonctionnelles du système nerveux au CHU de Grenoble. Nous retrouverons aussi tout à l'heure en ligne du Sénégal Kaira Thiam, psychologue et psychothérapeute à Dakar. Et à Casablanca, nous retrouverons Zouer Koradidi, animateur pour enfants au sein de l'association Noudjoum. En fin d'émission, on va retrouver la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
Fugue en rire, hein, ce rire de Henri Salvador, rire contagieux. En fait, c'est une des rares contagions dont on n'a exceptionnellement pas envie de se protéger. Anne-Victoire Rousselet, quand on parle du rire, il y a bien sûr pas mal d'évidence, hein, le sentiment de bien-être, le plaisir d'un bon moment, un bon mot qui se traduit par un éclat de rire. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment et pourquoi le rire est bon pour la santé, avec vous en particulier pour la santé mentale. Il y a bien sûr ces enjeux pour la santé psychique, mais il y a aussi des incidences pour l'organisme, une mécanique, des incidences corporelles. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. Ils se contentent d'imaginer que le rire, c'est quelque chose un petit peu superficiel, alors que c'est bien plus profond que cela.
Mais bien entendu, parce que le rire a une fonction, finalement, une fonction à la fois sociale et physiologique. Au niveau social, c'est l'intégration, pardon, dans le groupe. Une fonction de communication également. On va partager un moment, on va développer de la connivence, de la complicité, et on va partager finalement une représentation commune d'une situation. On va rire de la même chose. Donc, il y a cette approche sociale, et puis il y a cette approche physiologique que vous évoquiez, avec une diminution de la pression artérielle, une analgésie, une augmentation de la mémoire, de la collaboration aussi avec l'autre. On sait que le rire dans le travail va permettre aussi une meilleure collaboration et harmonie. Également une diminution de l'anxiété, une augmentation de la créativité, diminution du stress. Donc finalement, il y a énormément d'effets positifs au rire, qui soient à la fois physiologiques, sociaux et émotionnels, puisqu'il y a un abaissement des tensions générales avec ces mouvements, ces saccades qui permettent une détente, une relâche des muscles abdominaux, qui sont souvent en question dans les troubles anxieux et la fermeture du diaphragme. Donc on va avoir des effets bénéfiques à tout niveau.
Est-ce qu'on dirait pas que le rire est plutôt banalisé? Finalement, on le prend comme quelque chose d'annexe, sans importance. On dit par exemple, quand on est très tendu, vas-y, pleure, ça te fera du bien, mais on dit rarement aux gens, ris, ça va te faire du bien. Peut-être parce que c'est trop évident, c'est associé à du positif, et pourtant, certaines personnes ne rient plus.
Oui, tout à fait. Comme dans les grandes dépressions, où le rire est complètement absent, puisqu'il y a cette absence de distanciation par rapport aux événements, où on prend de plein fouet les émotions négatives, et où on manque de recul tout simplement par rapport à sa propre situation. Il y a également dans les troubles autistiques, où on va observer une perte, un non-développement en fait de cette capacité de représentation alternative, et donc finalement ne pas pouvoir rire et avoir une représentation décalée d'une situation qui nous permettrait de la prendre avec distance. Mais on peut aussi rire par excès, comme dans la maladie bipolaire par exemple, où finalement ça peut être un signe clinique également de quelque chose qui va moins bien.
C'est-à-dire des gens, on se retrouve avec des gens qui rient de façon automatique, quasiment sans stimuli du rire, sans situation humoristique.
Exactement, sans raison, en fait, c'est un état de nervosité qui fait qu'on a envie de rire et d'évacuer comme le pleur, comme le rire comme le pleur, et finalement l'expression d'une émotion, et doit être évacuée, cette émotion. Et donc il y a un trop-plein dans la maladie bipolaire, dans ces états d'euphorie, mais on peut également avoir une dissonance, comme dans les troubles schizophréniques, où vous allez rire de quelque chose qui n'est pas drôle, et vous vous retrouvez en marge, en fait, du groupe social, comme de rire d'un décès. C'est une façon d'exprimer, d'évacuer une émotion, mais complètement inadaptée socialement et qui va pousser à vous mettre à l'écart. Donc le rire a une fonction sociale, vers le plus, vers le moins également, mais a une fonction d'évacuation d'émotions. Et on rit également parce qu'on se sent en sécurité. Quand on a eu peur ou qu'on a eu un examen, par exemple, comme les étudiants dans quelques temps vont passer des examens et vont sans doute rire nerveusement après certains de leurs examens.
Parce qu'ils ont le sentiment que ce rire les protège ?
Parce qu'ils vont soulager une tension, une diminution, ils vont se sentir en sécurité par rapport au moment précédent l'examen où ils se sont sentis en situation de tension, en danger, en menace. Est-ce que je vais pouvoir passer mon année? Est-ce que je vais obtenir mon diplôme? Qu'est-ce que va être ma vie dans quelques temps?
Est-ce qu'on peut dire à ce titre, Anne-Victoire Rousselet, que le rire c'est un petit peu une thérapie anti-stress?
Oui, tout à fait. Tout à fait, en sécrétant sérotonine, dopamine, les endorphines, bien entendu, ça a des vertus thérapeutiques. D'ailleurs, il y a des thérapies du rire.
Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que en consultation, on parle du rire à proprement parler, parfois dans les échanges avec les patients, ce sujet vient sur la table, peut-être parce que certains disent, avant je riais plus, aujourd'hui je suis à la recherche de ce rire qui va me faire du bien. Comment on parle du rire quand on est psy ?
Alors, on peut l'évoquer, mais plutôt on l'invite finalement dans les séances, ce rire. Alors pas dès les premières séances, mais une fois qu'on connaît un petit peu la personne et qu'on va pouvoir tourner, l'aider à tourner en dérision certaines de ses difficultés pour l'aider à prendre du recul. C'est abordé comme une stratégie finalement de gestion du stress et de l'émotion. Elle fait partie de la liste des stratégies, hein, comme la méditation, comme le sport, etc. C'est une stratégie de gestion du stress et on va l'aborder comme tel. Alors, en faisant ce qu'on appelle du modeling, en tout cas en thérapie comportementale et cognitive, c'est-à-dire que on va montrer, on va faire, on va rire, se tourner soi-même en dérision.
Et avec des supports particuliers, comment vous faites ? Parce que un psy, vous n'avez pas eu un apprentissage pour faire rire une école de comédie, forcément. C'est quoi ? C'est avec des films, des supports, des sketchs ?
Alors, on pourrait. Chacun est libre un peu d'utiliser sa méthode. Vous savez, les psychothérapeutes ont chacun un peu leurs griffes. L'idée, c'est d'avoir des outils qu'on peut généraliser et utiliser partout. Donc, si on commence à introduire un médium, on va se retrouver dans l'obligation d'avoir ce médium pour pouvoir à nouveau appeler la stratégie. C'est-à-dire, si je leur dis, voilà, on va regarder des films, évidemment, il faudra qu'il y ait un film pour pouvoir s'amuser par la suite. Donc, l'idée, c'est plutôt d'apprendre la généralisation. Mais, vous avez raison, chez les patients très dépressifs et qui ne sortent plus de chez eux, qui n'ont plus d'interaction sociale, on va leur proposer de regarder des petites vidéos rigolotes de quelques minutes qui vont leur permettre de revenir à quelque chose de plus léger dans leur vie, là où tout est grave.
Mais ça veut dire que certaines personnes, Anne-Victoire Rousselet, ont perdu leur ressource de rire, leur capacité ?
Tout à fait.
Et ça, c'est quoi ? C'est avec des événements choquants où c'est une lente dégradation de leur morale, comme on dit trivialement, et qui va aller vers cet état dépressif. Si on parle, par exemple, de l'anxiété, est-ce que le rire peut également aider à résoudre certains troubles anxieux ?
participe, bien sûr, ça participe, que ce soit l'anxiété ou la dépression. En effet, le rire va participer à diminuer la tension en interne et surtout avoir cette stratégie, encore une fois cognitive, de représentation de situation. Vous avez des gens qui sont acculés, qui ont des difficultés, qui ont des traumatismes, des deuils, et qui réellement s'économisent, si vous voulez, au niveau de leurs ressources physiologiques, physiques, et vont se replier progressivement et limiter de façon contrainte. Intuitive, hein, très intuitive, vont limiter l'utilisation de leurs ressources à ce qu'ils doivent gérer, aux obligations. Et donc, se couper de ce qui leur paraît un peu plus superflu et qui sont les stratégies de gestion du stress et ce qui fait plaisir, c'est-à-dire les interactions sociales, le sport, les activités ludiques, de détente, l'art, etc. Ils vont se couper de tout ça pour se retrouver uniquement pris dans leurs émotions négatives et dans leurs contraintes. Et c'est là qu'on définit finalement la pathologie. C'est quand on perd ces stratégies de ressources, voyez. Et ce qui est important dans cette stratégie du rire, qui est une des stratégies qu'on peut utiliser dans la dépression ou dans l'anxiété, c'est qu'on peut l'appeler à nouveau à son souvenir en essayant de récupérer ce qui nous faisait rire avant.
Alors, rire pour mieux vivre dans certains cas, pour dépasser une véritable souffrance physique et favoriser un processus de guérison avec une illustration. Hein. C'est un reportage à l'hôpital Robert Debré, hôpital pédiatrique, où Raphaël Constant a suivi Alexandre Le Tondeur et Sébastien Delpil, sont membres de l'association Le Rire Médecin. Ils sont donc clowns depuis 10 ans. Ils viennent deux fois par semaine rencontrer les enfants du service hémato-immunologie pédiatrique. Alors la journée, eh bien, elle commence dans la salle des infirmières auprès desquelles les clowns récoltent les informations sur les pathologies des jeunes patients.
Qui peut nous faire des transmissions, s'il vous plaît ?
Alors j'ai Sophia qui est à la chambre 21, qui est une petite qui a 2 ans et demi, qui est chez nous pour une cure métho. Pas en aplasie, mais en isolement protecteur quand même. Ouais. Donc masse quand même. Rien de particulier, elle va bien. Pas nauseuse, pas douloureuse. Elle est en forme.
Petite, ouais. Toute mignonne là.
Oui, elle est très mignonne.
Oui, il y a un moment qu'elle est là. Oui, d'accord. Je vois qui c'est. Ouais.
Okay. Donc je m'appelle Ségolène et je suis infirmière depuis un peu plus de 5 ans dans le service. Voilà, on prend en charge des patients, des bébés à en général 15-16 ans maximum, majoritairement pour des prises en charge de leucémie. La greffe aussi sur l'étage d'au-dessus. Et on a des enfants qui souffrent beaucoup avec la présence des clowns et tout ça, qui se mettent à rigoler, à sourire, des choses, alors qu'ils sont très très renfermés sur eux. Parfois même, ça nous arrive de petit pas, on fait un soin qui est un peu compliqué et tout ça, et le fait de voir les clowns, ça les détend et tout ça, et ça les évade un petit peu. Et du coup, le fait que les clowns passent par là, nous, on peut aussi rentrer dans ce jeu-là qu'ils font, et du coup, on n'a plus cette position que de soignant, mais on peut aussi avoir la position de « on joue avec toi ». Le rire, c'est des jeux, c'est plus l'hôpital, c'est on oublie, c'est des choses qu'on fait en dehors de l'hôpital déjà avant, de rire, de jouer et tout ça. Et donc c'est ramener la normalité et la vie qu'on pouvait avoir avant et la vie réelle de l'extérieur dans l'hôpital.
Et est-ce que vous voyez une évolution justement chez les enfants que vous connaissez après votre passage ?
Ça se voit sur le visage d'un enfant, ça se voit dans sa posture physique. Il va pouvoir rire, il va rire très fort, il va pouvoir pleurer. Il y a certains passages qu'on fait en fonction de ce qu'on fait avec eux. On leur donne quelque chose qui les amuse et donc on va voir qu'ils vont être dans un mimétisme de nos gestes ou de notre délire. Donc oui, il y a une vraie évolution. Et puis après, on nous retransmet. Ben, les infirmières nous disent vous êtes passé. Il est encore là-dessus, il nous a demandé des choses en fonction de ce que vous aviez fait. Les parents, bien souvent, on peut les croiser dans le couloir, ils disent, vous êtes passé mardi, vraiment, il nous a raconté, il vous réclame, du coup il vous attend. Parce que comme les enfants ici sont là assez longtemps, ils sont au courant des jours de nos passages et ils nous attendent. Parce que c'est des moments privilégiés pour eux, quoi. Et c'est hyper important.
Sébastien, Alexandre, vous avez mis vos habits de clown.
Oui.
Vous êtes coloré, perruque, nez rouge, grandes chaussettes et banjo même.
Ukulélé pour être précis.
Et 1, 2, 3, surprise.
Je vous trouve très beau.
Oui. Comment ça?
Plus fort.
Je vous trouve très beau.
As-tu nous chanté une chanson? Oui.
Tu veux Adam?
Tu veux quoi comme chanson?
Je sais pas.
Je sais pas.
Je sais pas.
Je sais pas.
Tu veux quoi? Je sais pas. Tu veux quoi?
Bravo, mademoiselle.
Comment vous adaptez l'effet clown aux différents états de santé des enfants malades?
Nous, quand on est dans notre personnage, il me semble que la maladie, on la met de côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de tabou. Quand on rentre dans une chambre, au bout de 2 secondes, la température est prise et on sait exactement où on peut aller, où on peut ne pas aller.
On n'est pas les mêmes dans le regard d'un enfant. Il ne nous voit pas comme quelqu'un du corps soignant ou comme un instituteur. On est là pour jouer, pour distraire. Ensuite, les bénéfices du rire. Je crois qu'un enfant qui rigole, c'est un enfant déjà qui va peut-être un peu mieux moralement. Ça ne va pas guérir, on n'est pas des guérisseurs, mais on va apporter une petite soupape de rigolade, de carnaval, de fête. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de redonner du pouvoir aussi. Ils sont dans des services, notamment ici, où les gens rentrent systématiquement, les infirmières, les kinés, les médecins. Enfin, voilà. Et quand nous, on est là, ils peuvent remaîtriser quelque chose à l'intérieur duquel ils n'ont pas toute la maîtrise. La maladie a pris le dessus, les médicaments, tout l'environnement. Les clowns font qu'ils prennent le pouvoir, ils aiment bien se foutre de nous, et nous on aime bien chercher l'endroit où ils vont essayer de pouvoir se foutre de nous aussi, pour leur faire plaisir. Et un enfant qui est détendu sera plus facile à soigner qu'un enfant qui est complètement crispé.
Reportage de Raphaël Constant avec les clowns du Rire Médecin à l'hôpital Robert Debré. On vous retrouve, Anne-Victoire Rousselet, psychologue, psychothérapeute. Est-ce qu'on peut évaluer précisément cet impact du rire sur le processus thérapeutique? On l'a entendu, ça ne guérit pas, mais ça aide à soigner, hein, c'est ce que dit ce clown à l'hôpital. Est-ce qu'il y a des travaux qui portent sur cette question?
Alors, des travaux portent sur la question de l'humeur, c'est-à-dire les émotions, la capacité à être de bonne humeur et à être combattant dans les maladies somatiques, également évidemment dans les maladies psychiques. On sait que d'être capable de rire et donc d'évacuer les tensions, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ou d'être capable simplement de l'avoir, la dérision montre une bonne estime de soi, une capacité du coup à se protéger, à se projeter dans des activités
positives.
Positives ou dans une forme de guérison. Donc oui, le rire précipite plus d'actions puisqu'il génère des émotions positives. Les émotions positives permettent plus de dynamisme et donc une projection, y compris dans la pensée.
Et aller vers l'après, la maladie. On va justement donner la parole à l'un de ces agents provocateurs du rire. On part pour le Maroc. On vous retrouve en ligne de Casablanca. Zouer Koradidi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chanteur, animateur pour enfants pour l'association Noujoum. Ça signifie étoile, c'est bien ça?
Noujoum, étoile. Noujoum, c'est un ensemble d'étoiles. Ce sont des enfants qu'on appelle des étoiles. C'est Noujoum, c'est les enfants, c'est des étoiles.
Alors, votre nom de clown, c'est Papa Zouer. Vous travaillez en duo, c'est bien ça? Comment est-ce qu'on devient, comment on devient clown à l'hôpital?
C'est une vraie expérience parce que nous, on a fait de l'animation dans des écoles, dans des anniversaires, des carnavals et des kermesses, mais là, c'est différent. On a eu beaucoup d'expérience. C'est une formation continue avec l'association Noujoum. Depuis 2003, on a été contacté par la présidente, Madame Catherine Septi, parce qu'ils ont contacté plusieurs animateurs, et là, j'étais moi, chanteur-guitariste, accompagné d'un clown. Et moi, j'étais connu par les enfants à travers des chansons que je chantais avant aux écoles. Alors, quand j'ai contacté l'association, ils m'ont expliqué le concept du rire, rire et guérir. J'ai dit oui parce que j'étais concerné, parce que j'aimais beaucoup les enfants.
Passer de l'école à l'hôpital, ça change quoi?
Ça change beaucoup parce que il y a d'abord le contact qui est direct parce que il y a pas, il y a un son, il y a une guitare sèche et un clown en circule dans les couloirs. On va voir les enfants et on va les se rapprocher d'eux. On est habillé avec une blouse blanche et le clown avec un nez de couleur et moi avec ma guitare et un chapeau de cow-boy. Donc l'enfant, il se demande qu'est-ce qu'ils font ces gens-là avec la blouse blanche. On n'est pas là pour lui parler de la maladie, on n'est pas là pour des piqûres, on est là pour rire et chanter et danser, faire des blagues avec des petites marionnettes et tout. C'est intéressant, c'est différent.
Et les, enfants vous attendent, ils ont hâte que vous arriviez, ils sont habitués à votre présence.
Vous savez que depuis 2003, on est devenu on nous voit depuis la fenêtre, parce que depuis 2003, presque 16 ans, les enfants, ils attendent ce jour. Vers 14h, ils sont là, ils s'installent pour nous voir. Parce que nous, on donne un spectacle en bas à l'école de l'enfant pendant une heure, et après, on va monter voir dans les chambres. Vous savez qu'il y a presque 500 enfants, alors pour les voir, il faut donner un instant pour chaque enfant pour atteindre notre objectif, c'est de les voir sourire.
Spectacle sous deux formes, en chambre et sur scène. Vous pensez continuer à faire ça longtemps, le clown à l'hôpital, Zouer Koradidi?
Oui, je pense le faire le plus longtemps possible, parce que c'est un métier que j'aime. Moi, je suis animateur, je suis chanteur, je chante avec les enfants. Et pourquoi ne pas chanter pour les enfants malades, puisque les mamans, les papas, les médecins, tout le personnel apprécient ce qu'on fait. Donc, pourquoi ne pas le faire? Parce que si on peut donner quelque chose aux enfants pour les voir guérir et en bonne santé, pourquoi pas? Pourquoi pas, je crois que c'est...
Eh ben, en tout cas, on vous dit très 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 bonne continuation, Zouer Koradidi. Très bonne journée à vous à Casablanca. On vous retrouve en studio, Anne-Victoire Rousselet. Il y a un aspect dont on n'a pas parlé, c'est le rôle du rire sur le sommeil. Quand on rit beaucoup, est-ce qu'on dort mieux?
Oui, bien sûr, ça améliore toutes les fonctions, finalement, soit le sommeil, le système immunitaire, la digestion. C'est une activité de l'organisme naturelle qui permet d'évacuer les tensions. Et comme pour trouver le sommeil, on a besoin d'évacuer les tensions, évidemment, le rire participe à un sommeil amélioré.
Et dans certaines thérapies, on joue sur la respiration. Le rire, lui aussi, intervient sur cette respiration.
Tout à fait. Dans toutes les stratégies thérapeutiques qu'on va proposer aux patients, la respiration est souvent une des premières. Et le rire, avec cette saccade respiratoire, permet une amélioration, une respiration beaucoup plus fluide et donc également un meilleur accès à cet exercice de respiration et de relaxation.
Y compris dans un travail de psychologie où on va travailler sur cette respiration, sur des fonctions physiologiques associées à d'autres types d'approches?
Oui, bien sûr. Oui.
Et c'est quelque chose... qu'est-ce qu'en disent les patients une fois qu'ils ont suivi ce type de séance? Quel est le retour qu'ils vous font de ces séances où on travaille aussi bien sur le physique que sur le mental?
Alors, ils sont plutôt sceptiques au début, en disant, voilà, moi j'ai un problème compliqué, j'ai du mal à imaginer que la solution puisse être aussi simple. Je leur explique que c'est pas la solution, c'est une partie de la solution, et que je ne leur demande pas d'y croire, mais d'essayer et d'expérimenter quelque chose de nouveau. Ils sont un peu sceptiques et un peu dans cette inhibition qu'on a chez nous, en tout cas, à vouloir se mettre en mouvement physiquement pour gérer un problème psychologique. Ça paraît un petit peu superflu.
Alors, rire provoqué, parfois rire irrépressible, hein, c'est le fameux fou rire qui n'épargne personne, pas même le King, hein, Elvis Presley, sur scène, fou rire, août 1969. The world's a stage and each must play a part. Vous évoquiez tout à l'heure, Anne-Victoire Rousselet, ce rire pathologique associé à certaines maladies. Pour autant, dans le mot « fou rire », il y a « fou », ça doit forcément vous parler, vous qui êtes psychologue. Qu'est-ce qu'on voit derrière ce fameux fou rire?
C'est vraiment relâcher les tensions et ne plus pouvoir reprendre le contrôle de cette respiration saccadée, donc du rire. C'est ce qui se passe dans le fou rire, c'est incontrôlable. Alors, on a le sentiment que, justement, on perd le contrôle conscient, et en réalité, on évacue simplement des tensions, on ne devient absolument pas fou d'avoir un fou rire.
Alors, les personnes qui, elles, sont malades et rient sans pouvoir vraiment contrôler la situation, est-ce que c'est, parmi les symptômes de la maladie, quelque chose qui est source de souffrance pour elle, Anne-Victoire Rousselet?
Oui, bien entendu. Dans la schizophrénie, par exemple, il y a la question des rires immotivés, où la personne rit de façon inadaptée. C'est à la fois un signe clinique pour nous, et en même temps une source de souffrance, parce que dans les moments de lucidité, les patients repèrent que c'est inadapté de rire dans une situation triste, par exemple un deuil, et ils perçoivent la souffrance que ça peut engendrer chez leurs interlocuteurs, et donc sont culpabilisés de ça. Donc finalement, ce rire émotivé qui pourrait être un relâchement de tension induit une nouvelle tension, des émotions négatives comme la culpabilité et la tristesse.
Alors on va parler tout de suite, si vous le voulez bien, des interactions entre l'activité du cerveau et le rire. Nous sommes en ligne avec Laurent Vercueil. Laurent Vercueil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue responsable de l'unité des explorations fonctionnelles du système nerveux au CHU de Grenoble, actuellement au Vietnam pour dispenser des cours. Est-ce que la production du rire, Laurent Vercueil, trouve une localisation dans le cerveau?
Oui, tout à fait, et même plusieurs localisations en fait. Hein. C'est-à-dire que dans le détail, on a un producteur, un effecteur du rire, qui est une organisation très précise de la coordination, des mouvements du visage, de la respiration, du diaphragme, des muscles abdominaux, etc., et qui se situe dans le tronc cérébral, qui est une structure assez profonde dans le cerveau. Et cette structure, en fait, est sous la dépendance de deux circuits qui sont complètement séparés et qui ont deux fonctions très 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 différentes l'une de l'autre, mais qui toutes les deux conduisent au rire.
Un rire qui peut être sensoriel, et puis un rire qui peut être psychologique.
Voilà, en fait, il y a un circuit qui est un circuit émotionnel, c'est évident, hein, donc qui passe par l'amygdale, qui sont les structures du cerveau qui notamment vont colorer les émotions, hein, qu'on ressent, l'hypothalamus, et puis qui va aller donc exercer une pression sur ce centre du rire, et va déclencher le rire involontaire, le rire émotionnel, le rire qui fait plaisir, le rire qui vient soulager souvent la personne, hein, et c'est ce rire qui peut dégénérer en fou rire. Et puis un autre rire qui est un autre circuit tout à fait séparé, qui lui est un rire volontaire, c'est le rire de convenance, c'est le sourire social, c'est le rire de connivence, c'est le rire qu'on va produire pour manifester qu'on est on est plutôt en harmonie avec la personne qui est devant soi, mais sans forcément qu'il y ait le contexte émotionnel. Et en fait, cette séparation entre les deux rires, rire émotionnel et rire volontaire, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très très longtemps. Notamment parce que les personnes qui ont, par exemple, des AVC, vous savez, qui sont hémiplégiques et qui ont des paralysies de la moitié du visage, vont perdre la possibilité de produire un rire volontaire, contrôlé, social, donc sur commande, si vous voulez, alors qu'elles vont conserver la possibilité de rire à la demande, c'est-à-dire que la partie paralysée du visage va tout d'un coup s'animer lorsque le contexte sera vraiment celui d'un rire franc.
Est-ce que le neurologue peut expliquer la contagion d'un fou rire ?
Oui. Alors, de manière générale, les émotions, et le fou rire est vraiment un rire émotionnel, hein, à la différence du rire volontaire, du rire social dont je parlais, les émotions sont toutes contagieuses, toutes. Pour des raisons assez simples, hein, qui est que si j'ai peur, vous avez sans doute intérêt aussi à ressentir cette peur pour pouvoir être armé et prendre les décisions assez rapides qui peuvent s'imposer devant un danger. Hein. Donc, en général, les émotions sont toutes contagieuses. Le rire est une émotion positive, hein, bien sûr, et elle va être contagieuse comme toutes les émotions qu'on connaît.
On a parlé tout à l'heure des rires pathologiques, ces rires involontaires et qui ne font pas forcément du bien. Est-ce qu'il y a une lecture justement dans le cerveau, Laurent Vercueil, de ces rires pathologiques déconnectés du contexte social ou de l'humeur?
Bien sûr, bien sûr. En fait, ça revient un petit peu sur ce que je vous expliquais sur les différents circuits du rire. Hein. Cette région-là du tronc cérébral qui est assez bas située et qui est une région qui va en gros programmer le rire dans ses mécaniques de réalisation, hein, peut être par exemple complètement déconnectée des régions de contrôle, notamment émotionnelles. Et donc les gens peuvent avoir des rires détachés absolument de tout contexte. Et on peut rencontrer en neurologie des patients qui vont se mettre à rire brutalement au cours de la conversation en nous priant de les excuser parce qu'ils n'ont absolument pas aucune envie de rire, mais c'est un rire un petit peu automatique, on parle de rire spasmodique. Ce sont des rires qui sont en fait qui manifestent le fait que la région qui produit le rire est complètement déconnectée des autres régions du cerveau, qui sont ces régions qui exercent un contrôle sur ce rire.
Alors on souligne la production d'hormones spécifiques associées au rire, Laurent Vercueil. Comment décrire ce fonctionnement justement de cette machine à hormones quand on rigole?
Font des émotions dans cette relation entre notre corps, et dans le corps j'inclus le système immunitaire, le système hormonal bien sûr, et notre cerveau, et dans le cerveau on dirait la conscience, l'esprit, etc. Et si vous voulez, les émotions, c'est ce point de connexion. Donc le rire va aller notamment au niveau de l'hypothalamus, hein. L'hypothalamus c'est une grande tour de contrôle du système nerveux autonome, mais aussi du système hormonal, vont aller exercer des effets qui vont se traduire par des changements hormonaux.
Alors, justement, quand on dit que le rire soulage de la douleur, ça fonctionne comment exactement?
Alors, de plusieurs façons. Hein. Il y a une façon assez biochimique. Hein. Il y aura une augmentation de la production de neurotransmetteurs qui sont des neurotransmetteurs plutôt qui vont aller se fixer sur des récepteurs opioïdes, c'est-à-dire ceux qui sont sensibles à l'opium, donc un effet vraiment analgésique. Mais il y a aussi un effet très simple, hein, qui est un effet de distraction. Hein, la douleur, elle est surtout présente lorsqu'elle est au premier plan, lorsqu'elle est là. Et si on peut être distrait de sa douleur, quelle que soit en fait la façon d'être distrait, hein, on peut arriver à la faire passer un petit peu à l'arrière-plan et à moins la ressentir directement.
Et j'ai une dernière question, Laurent Vercueil, elle tient en deux mots, et les chatouilles?
Eh bien, les chatouilles, c'est vraiment très intéressant parce que, à nouveau, on replonge sur cette interaction entre le ressenti du corps, hein, ce qui se passe dans notre corps, et les émotions et notre esprit. Et les chatouilles sont irrésistibles parce qu'elles interviennent de cette façon-là, sur cette connexion entre le corps et l'esprit.
Merci beaucoup, Laurent Vercueil. Je rappelle que vous êtes neurologue responsable de l'unité des explorations fonctionnelles du système nerveux au CHU de Grenoble et vous avez signé le livre Chatouilles et autres petits tracas neurologiques. Tiens, aux éditions Belin.
Eh bien, expliquez-nous. Priorité santé sur RFI.
C'est l'humour, ça.
Anne-Victoire Rousselet, petit trait d'humour de Didier Bleu, sans me prévenir, coquin. Vous êtes psychologue, psychothérapeute. On a parlé donc de cet impact sur la douleur. Tout à l'heure, on a parlé de la capacité respiratoire, même de l'immunité. Et bien sûr, très important de rire sur la perception de soi-même, l'estime de soi. D'ailleurs, quand on voit un certain nombre de comiques, donc les gens payent pour aller rire, beaucoup de comiques rient d'eux-mêmes, se dévalorise et ça fait rire les gens. C'est quoi ce rapport entre son image, rire fait du bien, rire de soi fait du bien? Comment ça marche tout ça?
C'est cette question intéressante de la mise à distance et qui est très à la mode avec les spectacles comiques justement de stand-up où les gens parlent en effet d'un événement dans lequel on peut se retrouver, de la vie quotidienne assez simple, et donc il y a finalement ce partage d'une émotion négative, d'un moment de solitude,
comme quoi être tourné en ridicule dans certains cas ça peut faire très mal et dans d'autres cas ça peut soulager de se ridiculiser pour la bonne cause. Comment c'est assez étonnant, c'est un même événement peut créer deux sentiments, deux émotions complètement différentes.
Oui, tout à fait, parce que pris à un moment différent aussi, donc parfois avec la distance, peut-être des choses qui nous sont arrivées quand on était enfant dans la cour d'école, dont on n'a absolument pas ri sur le moment, aujourd'hui nous permettent de déclencher des souvenirs un peu, même pas nostalgiques, mais oui, un peu d'humour et des rires. Mais ce qui est important dans ce décalage, c'est plutôt le partage d'une représentation commune. En fait, à ce moment-là, le comique vient nous dire « je suis comme vous ». Moi aussi, il y a des choses qui m'arrivent. Ça me détend aussi de me dire que les autres qui sont dans cette salle me ressemblent. Mais attention, et la limite, me semble-t-il, est justement dans cette question du ridicule ou de l'humiliation, où là, tout d'un coup, on peut en effet se retrouver et pas rire du tout.
On peut pas distinguer l'humour de la moquerie.
Exactement. Et dans le rire qu'on va intégrer justement dans la thérapie pour améliorer l'estime de soi, pour faire un peu de dérision, etc. On va surtout bannir la moquerie et privilégier la bienveillance. On peut rire de plein de choses. Et c'est la façon de le présenter qui va nous permettre d'en rire.
Alors, on l'a dit tout à l'heure en présentation, Anne-Victoire Rousselet, les enfants rient beaucoup plus que les adultes. C'est même quantifié. Les enfants riraient 300 fois par jour. Les adultes 20 fois par jour, ça dépend lesquels. Oui. Alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Est-ce que rire, c'est propre à certains âges de la vie ? Est-ce que par exemple les personnes âgées rient moins ?
Non, c'est pas propre à certains âges de la vie, c'est propre à certains contextes. Je pense que c'est particulièrement dans notre contexte qu'on rit moins. Je suis pas sûre que au niveau culturel, on retrouve la même chose dans d'autres pays. Je pense aussi que l'enfant est plus spontané et on s'interdit des choses. On a aussi construit une forme de dichotomie entre être sérieux, bien faire son travail, être sérieux et rire, s'amuser. Or, on peut très bien faire son travail en s'amusant. Et donc, il y a finalement des repères qui sont sociétaux et qui biaisent un petit peu notre présentation et donc notre comportement.
On pourrait dire en particulier que certains contextes professionnels brident le rire.
Bien sûr.
Et même scolaire, parce que vaut mieux éviter les fous rires en classe, sinon on est puni. Le rire, là, devient quasiment délictueux.
Exactement, ça devient oui une offense à l'autorité. Alors que finalement, ça pourrait être un moment de partage.
Alors, on va tout de suite partir, justement, vous disiez, c'est la situation peut être différente dans d'autres contrées. On va partir tout de suite pour le Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, Kaira Thiam, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en psychopathologie et psychologie clinique, donc à Dakar. Est-ce que le rire, Kaira Thiam, c'est quelque chose qui revient lors de vos consultations? Vous l'évoquez ouvertement ou c'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure?
Alors, dans mes consultations, en général, je l'évoque de manière très ouverte et je l'intègre dans le cadre de la consultation en l'énonçant. Au moment où j'énonce le cadre à la première consultation, à la fin, pour casser un peu le côté très solennel et très inhibant de la position asymétrique, je dis toujours la même phrase, c'est que bon, alors le cadre c'est ça. Et puis dans le cadre, je fais de temps en temps des blagues pourries de psychologue. Et en général, le patient rit. Ou au moins sourit, et j'ai l'impression en tout cas que quelque chose d'une angoisse retombe à ce moment-là, et le patient peut avoir un certain plaisir à revenir en consultation et ne plus être écrasé par la position du thérapeute.
Est-ce que certains patients d'ailleurs font part de leur surprise? Ils ont l'impression que vous sortez un petit peu de votre rôle en vous permettant certaines blagues et justement vous le disiez, ça les rassure?
Alors, surpris, oui, pour certains qui ont une certaine image de l'autorité ou du psychologue plutôt dans son côté psychanalyste, très fermé, très solennel, et ils viennent découvrir une psychologue qui est plutôt assez tranquille avec les émotions des uns et des autres, et notamment le rire, et ça n'est pas gênant. J'ai d'ailleurs une patiente qui a décidé de venir me voir parce qu'elle me trouvait rigolote.
C'est un beau compliment. J'espère qu'elle vous trouve aussi assez professionnelle de l'autre côté.
A priori, qu'elle continue à venir.
Est-ce que certains de vos patients se plaignent, Kaira Thiam, de ne plus rire?
Je pense que pour certains, ils ne se rendent pas compte qu'ils ne rient plus. Et au fil du temps, ils s'aperçoivent, que progressivement, ils recommencent à rire, ils recommencent à être surpris, ils recommencent à ressentir ces émotions positives qui les mettent, qui font qu'ils se sentent de mieux en mieux au cours de leur psychothérapie, notamment dans des situations, je pense comme ça, là, de dépression par exemple, où subitement, on a l'impression qu'avec le rire, il y a quelque chose du patient qui se réveille. qui reprend un petit peu goût à la vie, et notamment par le sourire, par le rire, par la détente que ces rires peuvent provoquer.
On parlait tout à l'heure du rire lien social, bien sûr, en fonction du contexte culturel. Est-ce que vous avez l'impression, avec un petit peu de recul sur l'expérience, que certains environnements, justement, sont moins propices au rire et donc aussi moins propices à l'épanouissement ?
Oui. Alors, il se trouve que j'ai changé de continent il y a 2 ans.
Donc, vous avez des éléments de comparaison ?
Voilà, j'ai quelques éléments de comparaison. Et effectivement, dans la pratique clinique en France, c'était très... Il y avait quelque chose de très solennel, de très professionnel, où voilà, il fallait être sérieux, comme
on va dire médicalisé.
La collègue tout à l'heure, assez médicalisé. Et je trouve que... Et puis je pense que je détonnais déjà à ce moment-là, parce que je suis quelqu'un qui rit, quoi qu'il en soit. Mais en arrivant au Sénégal, j'ai retrouvé ici ce que le collègue neurologue disait du rire, de connivence, de convention, etc. Au Sénégal, tout le monde rit beaucoup, a priori, taquine, c'est une manière d'être en relation. En revanche, je n'ai jamais été très convaincue que c'était un rire qui véritablement provoquait une certaine détente, une certaine diminution de l'angoisse.
Vous diriez davantage un rire de façade.
Voilà, un rire de façade, un rire de convenance, il faut rire, tout va bien, tout va toujours bien, on évoque très peu les difficultés et les problèmes. Ce faisant, comme c'est un, je trouve que c'est un objet intéressant de relation, ça n'a pas été très compliqué de l'intégrer dans la consultation, puisqu'a priori, c'est une manière d'être en lien. Maintenant, je l'utilise aussi comme un objet de relation avec une pensée clinique derrière qui peut me servir dans certaines situations.
Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé, Kaira Thiam. Je rappelle que vous êtes psychologue et psychothérapeute.
RFI à Dakar, 92 FM.
Nous arrivons à la dernière partie de notre échange, bienfait du rire pour la santé. Est-ce que concrètement, des patients sont déjà arrivés dans votre consultation, Anne-Victoire Rousselet, en disant « voilà, je ne ris plus ». Souvent des gens viennent dire « je dors plus, j'ai des problèmes relationnels », mais certains diraient « je ne ris plus, je voudrais retrouver le chemin du rire ». Est-ce que ça arrive ?
Alors, pas réellement comme ça, c'est-à-dire que le rire leur paraît souvent secondaire. Quand ils ne rient plus, ils ne se rendent pas compte qu'ils ne rient plus, finalement. Ils sont tellement emprisonnés dans des émotions négatives et des souffrances, des angoisses, qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont perdu cela, comme des activités plaisantes également. Donc, en revanche, on va se rendre compte qu'ils sont capables de rire au fur et à mesure des entretiens, que la relation s'installe, comme le disait la collègue. Installer la relation avec le rire permet une meilleure efficacité aussi de la thérapie. Mais donc, ça n'est pas une plainte première. Jamais une personne qui soit venue en disant, voilà, mon problème, c'est que je ne ris plus. Mais ça vient comme un élément clinique qui vient étayer un tableau un peu plus compliqué.
Justement, un tableau clinique, Anne-Victoire Rousselet, est-ce que, sera ma dernière question, dans la prise en charge, par exemple, de la dépression, quand le rire revient, c'est quelque chose concrètement que vous notez noir sur blanc pour dire c'est un élément clé, une étape vers la guérison ?
Bien sûr, je commence même par noter le sourire. Un traitement de la dépression, je suis déjà ravie d'avoir un sourire. Mais oui, bien sûr, quand le rire revient, quand l'autodérision revient, quand la capacité d'humour de second degré reviennent, c'est une fonction, comme on l'a dit tout à l'heure, prioritaire dans la question de la gestion des émotions, du stress et donc de notre quotidien, puisqu'on est assailli d'émotions positives et négatives toute la journée. Et c'est... pour moi, un signe de guérison, et c'est également un signe de bonne alliance de s'autoriser à rire avec son thérapeute. Ça veut dire qu'on est assez à l'aise pour éventuellement lui faire une blague ou parler de soi de façon un petit peu plus légère.
Et plus sincère. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses, Anne-Victoire Rousselet. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes psychologue et psychothérapeute spécialisée en thérapie comportementale et cognitive au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. Et on parle activité physique dans Priorité Santé tout de suite avec vous, docteur Jean-Marc Sen. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Docteur Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très connu, hein, beaucoup d'entre nous l'ont déjà ressenti. Il s'agit du fameux point de côté. Mais déjà, c'est quoi au juste un point de côté ?
Bah, le point de côté, c'est cette fameuse douleur aiguë, brutale, qui est en haut de l'abdomen, sous les côtes, hein, du côté droit ou quelquefois du côté gauche, et qui apparaît justement lorsqu'on va faire un effort. Alors, l'origine est encore assez mystérieuse. On ne sait pas trop d'où ça vient. Bon, on pense que c'est probablement le muscle du diaphragme, hein, qui peut se cramper réellement et créer cette douleur. Alors, ça peut être aussi peut-être digestif avec des distensions gazeuses. Peut-être que la vésicule biliaire rentre là-dedans dans ce mécanisme. Mais en tout cas, toujours est-il que effectivement les organes ou les muscles qui sont dans la région sont de toute façon en cause dans cette douleur.
Alors, est-ce qu'il y a des moyens, docteur Sen, d'éviter les points de côté ? Et quand il est là, le fameux point de côté, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Bah, la première chose, si on prend l'idée que c'est le diaphragme, bah, c'est d'abord de bien chauffer ce diaphragme. Et là, avant de se lancer dans un exercice, il faut pas hésiter à faire un petit exercice ventilatoire, hein, où on va essayer d'inverser le processus habituel de respiration. Quand on va inspirer, en même temps, on va rentrer le ventre, hein. Et puis quand on va souffler, on va gonfler le ventre. Et là, en faisant ça, eh bien, on va faire vraiment travailler, échauffer véritablement son diaphragme. L'autre chose, c'est de démarrer très progressivement. Il faut pas se mettre à courir, j'ai envie de dire comme un dératé.
Dire comme une brute.
Voilà. Et tout simplement, il faut aller augmenter le rythme comme ça, progressivement, pour permettre à l'ensemble de l'organisme, y compris le diaphragme, de s'échauffer. Bien écouter sa respiration, hein, et en se concentrant au moins au début sur sa respiration, en ayant une respiration profonde, et qui doit être d'autant plus profonde que, justement, l'effort est plus rapide. Boire un petit peu d'eau, quelques petites gorgées, pas d'un seul coup pour justement pas faire de distension digestive, mais par petites gorgées, et puis bien attendre aussi la fin de la digestion. C'est-à-dire qu'il faut attendre au moins 2-3 heures après avoir mangé pour se mettre à faire du sport, pour pas justement que le sang soit détourné vers le système digestif pendant l'effort. Et puis, si jamais le point de côté arrive, faut arrêter l'effort, hein, faut ralentir, ça c'est la première chose à faire. On peut essayer de comprimer avec la main ou le poing justement la zone qui est un petit peu douloureuse, respirer lentement et profondément. Et puis, on peut s'allonger tranquillement ou marcher en faisant quelques petits étirements.
Alors, on peut penser à un point de côté, c'est anodin, ce n'est pas bien grave. Malgré tout, est-ce qu'il y a des cas où on doit consulter son médecin ?
Bah oui, parce que, bon, évidemment, là, le point de côté, c'est très fréquent et c'est tout à fait bénin, il n'y a aucun problème. Mais il y a certaines pathologies graves qui peuvent prendre l'aspect, qui peuvent mimer le point de côté. Par exemple, si la personne a un problème cardiaque, fait un infarctus ou une angine de poitrine, ou s'il y a même des problèmes d'embolie pulmonaire, de problèmes de poumons, comme le pneumothorax, voilà, tout cela peut, ou même osseuse, hein, des problèmes osseux avec la fracture de fatigue, eh bien, tout cela peut mimer un point de côté. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si par exemple la personne a une douleur dans la cage thoracique, qu'elle se dirige vers le dos, bon, quand même, là, c'est peut-être pas un point de côté, il y a peut-être un problème cardiaque, il faut aller consulter son médecin. Si la personne est essoufflée au moindre effort et a un essoufflement tout à fait anormal, là aussi, c'est peut-être pas le point de côté, il faut aller voir son médecin. Enfin, si il y a des douleurs qui se manifestent au repos, alors qu'on a arrêté, bien évidemment, de courir et qui s'accompagnent par exemple de fièvre, il faut là aussi consulter son médecin parce que c'est probablement pas un point de côté. Si vous voyez votre médecin et qu'il vous le rassure, en disant oui, voilà, vous n'avez aucune de ces pathologies, bon voilà, c'est un point de côté, c'est banal, et là, quel que soit le niveau de pratique chez le sportif, on sait que ça peut arriver, et on peut alors continuer son sport sans problème en prenant les précautions que l'on a citées.
Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. À très bientôt sur RFI. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Aujourd'hui, Ophélie Lassen, Baptiste Madinier, Didier Bleu et Laurence Nau. Demain, dans Priorité Santé, nous parlerons des brûlures, réparations, cicatrisation, prévention aussi, bien sûr. À demain.
Priorité santé avec Suno Assurance. Comme les voyageurs prévoyants, assurez-vous de belles vacances avec l'assurance voyage. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.